On a vu la semaine dernière, on a commencé le chapitre 6 de Romains. Je vous invite à vous tourner. On va prier d'abord. Seigneur, merci pour la possibilité de nous réunir dans ces lieux. Seigneur, merci pour la joie d'être ensemble, Seigneur. Merci pour la joie de te connaître pour la plupart d'entre nous, Seigneur. Et la joie de la communion fraternelle que tu nous donnes, Seigneur, avec toi et les uns avec les autres. Sois glorifié ce matin dans nos cœurs, dans nos vies. Tu vois, nous parlons de sujets essentiels dans cette lettre de Paul aux Romains. Des choses qui nous colle à la peau en quelque sorte, car nous avons reçu de nos ancêtres cette nature de pécheur avec laquelle nous nous débattons constamment. Et Seigneur, tu viens par ta parole et par l'Esprit Saint qui l'a inspiré nous donner une meilleure compréhension de ces choses, Seigneur. Aide-nous non seulement à les comprendre davantage, mais à les mettre en pratique. Aide-nous à être vraiment à ton écoute, Seigneur, et sois glorifié dans nos vies. Te remettons aussi, comme l'a fait Tonio, les autres églises de cette ville, de ce pays, Seigneur, qu'elles t'honorent et qu'elles portent vraiment la lumière autour d'elles dans ce monde de ténèbres, Seigneur. Aide-nous à nous saisir de cette opportunité de Noël, où même dans le monde séculaire, l'idée d'une lumière qui brille dans les ténèbres et anime même les commerçants et les marchés de Noël, toutes ces choses, Seigneur. Aide-nous à parler de toi autour de nous, à expliquer quelle est l'assurance que nous avons de ton amour et pourquoi tu es venu à Noël. Que derrière Noël, c'est Pâques qui se profile et ta résurrection et le salut de l'humanité pour ceux qui veulent t'écouter et te faire confiance. Sois glorifié ce matin. Amen. On a vu la semaine dernière, dans le début du chapitre 6, donc c'est page 1272, dans la Bible second 21 de près, que on va relire d'ailleurs. On va relire tout le chapitre 6. Si vous voulez bien vous lever, ça va faire circuler un peu le sang dans nos cerveaux, nous réveiller si on se sent trop à l'aise dans la chaleur et dans le soleil. Prions, lisons. Que dirons-nous donc ? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie ? Certainement pas. Nous qui sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous encore vivre dans le péché ? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Par le baptême en sa mort, nous avons donc été ensevelis avec lui, afin que comme Christ est ressuscité par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous menions une vie nouvelle. En effet, si nous avons été unis à lui par une mort semblable à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection semblable à la sienne. Nous savons que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. En effet, celui qui est mort est libéré du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Car nous savons que Christ ressuscité ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Christ est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Maintenant qu'il est vivant, c'est pour Dieu qu'il vit. De la même manière, vous aussi, considérez-vous comme mort pour le péché, et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. Que le péché ne règne donc plus dans votre corps mortel pour vous soumettre à lui par ses désirs. Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice, mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie, et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. En effet, le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. Et le nouveau passage que nous allons voir ce jour. Quoi donc ? Allons-nous pécher parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce ? Certainement pas. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais que Dieu soit remercié, alors que vous étiez esclaves du péché, vous avez obéi de tout cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confiés. Et une fois libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de votre faiblesse naturelle. De même que vous avez mis vos membres comme esclaves au service de l'impureté et de l'injustice pour arriver à plus d'injustice, de même maintenant, mettez vos membres comme esclaves au service de la justice pour progresser dans la sainteté. En effet, lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres par rapport à la justice. Quels fruits portiez-vous alors ? Des fruits dont vous avez honte aujourd'hui, car leur fin, c'est la mort. Mais maintenant que vous avez été libérés du péché et que vous êtes devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la progression dans la sainteté et pour fin la vie éternelle. En effet, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Vous pouvez vous rasseoir. On a, dans le chapitre 6, une division un peu naturelle. Les premiers 14 versets que nous avons étudiés ou survolés ou examinés la semaine dernière, nous avons le fait que nous sommes morts au péché et c'est une description, un peu, on pourrait dire, de la théorie. Nous sommes morts au péché, à sa puissance. Et puis aujourd'hui, on va voir qu'on est mort à la pratique du péché. Alléluia. Est-ce qu'il y en a qui ont des problèmes avec le péché ? Je ne vais pas demander qu'on lève la main, mais moi je pourrais lever les deux mains, même si... Le péché. Si nous ne sommes pas un meilleur époux, une meilleure épouse, si nous ne sommes pas de meilleurs parents, si nous ne sommes pas de meilleurs citoyens, de meilleurs membres de l'Église, c'est la faute au péché. C'est tout bête, mais le péché est là qui nous cerne de toutes parts. Mais le mérite de cette lettre aux Romains, c'est de nous montrer que Dieu nous a libérés de la pénalité du péché. On a vu qu'on a parlé de la justification. Et puis à partir du chapitre 6 et suivant, on va parler de la sanctification. Dieu nous libère de la puissance du péché. On n'a plus à dire oui au péché à chaque fois. Et il va utiliser l'image de l'esclavage pour nous expliquer ces vérités profondes. Et là, les deux passages par lesquels on divise le chapitre 6, ils posent une question. Le premier verset du chapitre 6, c'était « Que dirons-nous donc ? Allons-nous persister dans le péché afin que la grâce se multiplie, afin que la grâce abonde ?» Et sa réponse catégorique, c'était « Ça ne va pas la tête. Certainement pas. Qu'il n'en advienne jamais une telle chose n'advienne jamais. C'est une expression très forte. C'est pour dire arrêtez, stop. Ne dites jamais ça, c'est pas possible. L'idée, c'était de dire que puisque Dieu était glorifié lorsqu'il nous pardonnait par le moyen de sa grâce, alors lorsqu'on continuait, on persistait dans le péché, comme c'est très bien traduit dans la version Second 21, on pouvait imaginer une telle chose, de dire que puisque Dieu pardonne et qu'il est glorifié par sa grâce et son pardon, alors allons-y de bon cœur, vivons dans le péché continuel, etc. Ici, il repose un peu la même idée, parce que il a déjà parlé à des personnes autour de lui, de ses vérités, il a vu les questions qui étaient posées, et en fait, dans son cœur lui-même, il sait que on se pose la question. Et verset 15, il dit, « Quoi donc ? Allons-nous pécher ?» Parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce. Il vient de dire au verset 15, « Le péché n'aura pas de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes plus sous la loi, mais sous la grâce. » La loi était venue par Moïse, la grâce est venue par Jésus-Christ, nous dit Jean dans le premier chapitre de l'évangile de Jean. Là encore, c'est l'idée, là le mot péché, c'est le péché, c'est pas la vie de péché, c'est pas le péché continuel, c'est une différence de temps grammaticale en grec qui veut dire est-ce que de temps en temps on peut pas s'accorder une petite pause péché ? Puisque de toute façon on sait qu'on va être pardonné par Dieu, on n'est pas sous la loi, on n'est pas à recevoir les 10 commandements et dire si on dévie d'un tant soit peu, on va être condamné, mais puisqu'on est sous la grâce, que Dieu nous donne cette faveur qu'on ne mérite pas, qu'il nous accepte si on vient à lui, vous rappelez, tout ce qu'il nous faut, nous qui sommes des hommes de peu de foi, des oligopistos, je ne sais pas si vous vous souvenez le mot, essayez de vous le mettre dans la tête, oligopistos, peu de foi, ça parle mieux en grec pour moi, dans le sens où c'est un mot bizarre, oligopistos. Bonjour oligopistos, comment ça va ? Parce que ça nous rappelle que notre foi, elle est toute petite et que Dieu, lui, il est digne de notre petite foi parce qu'il est tout puissant, il est géant et on peut lui faire confiance, ça peut marcher. Mais l'idée, c'est que puisque on a un peu de foi, il nous pardonne, alors est-ce qu'on va en profiter pour dire bon ben de temps en temps je décroche un peu et puis je me laisse aller, ça fera du bien à la vieille nature. Là encore, c'est la même réponse, certainement pas. Ça va pas la tête, vous êtes devenu fou, vous croyez pour qui, vous n'avez rien compris. C'est très fort, encore une fois. Donc on ne doit pas vivre dans le péché de façon continuelle, pour que sa grâce abonde de plus en plus. On est mort pour le péché. Comment on pourrait vivre encore dans le péché de façon continue ? Il dit qu'on est mort pour le péché. J'aimerais qu'il écrive, qu'il dise que ce soit une vérité, que le péché est mort en nous. Ce n'est pas ce qui est dit. On est mort à la puissance du péché, à la pénalité d'abord, ça c'est la justification, maintenant la sanctification, on est capable de résister, on n'est plus, on va le voir, esclave du péché. Et ici, on n'est pas sous la loi mais sous la grâce, ça ne nous donne pas une licence pour de temps en temps se reposer un peu, et se dire que, bon, de temps en temps, c'est pas bien grave, Dieu va me pardonner. C'est vrai, mais on va voir que c'est pas la meilleure façon de vivre. On est mort pour le péché. Nous qui sommes morts pour le péché. Il s'adresse aux chrétiens de Rome à l'époque, juifs et païens. Et à travers les âges, il s'adresse à nous par son Esprit Saint qui a inspiré ses paroles et qui vient nous les rendre vivantes dans nos vies, dans nos cœurs. Comment est-ce qu'on peut savoir qu'on est mort au péché? Comment est-ce que vous pouvez savoir que vous êtes mort? Il y a un auteur chrétien chinois, Watchman Nee, qui répond. Je veux faire une petite parenthèse. On a eu la joie de pouvoir parler, petite parenthèse, hein, sur la Chine. On fait le stand, le China. On a le stand à la fac et ce vendredi dernier, on a eu un étudiant chinois qui est en France depuis 2 ans qui s'est arrêté pour parler un peu de la Bible et nous poser des questions. Et on lui a demandé s'il avait un arrière-plan chrétien, s'il avait quelques connaissances. Et en fait, il se trouve que si ses parents maternels sont bouddhistes, ses grands-parents maternels étaient bouddhistes, ses grands-parents paternels étaient chrétiens. C'est très rare. Mais en fait, il nous a dit qu'il vient d'une ville et qu'on peut trouver cette ville sur Google en tapant « ville chinoise la plus chrétienne ». Et c'est la ville de Wangzhou. Et dans cette ville, tenez-vous bien, il y a 1 million de chrétiens, protestants, catholiques, essentiellement ça, il n'y a pas trop d'orthodoxes, sur une population de 9 millions. Dieu a essayé d'interdire le christianisme en Chine. Il y a une persécution terrible et Dieu a permis cela. Et je vous dis tout ça parce que j'ai été frappé et qu'il y ait un tel mouvement en Chine. Mais un des grands chrétiens chinois contemporain, c'était l'auteur chrétien chinois Watchman Nee. Vous trouvez ses livres à la librairie biblique à Nice. Et il disait, comment pouvez-vous savoir que vous êtes mort? Vous pouvez le savoir pour la raison suffisante que Dieu l'a déclaré. Cela ne dépend pas de vos sentiments. Si vous avez le sentiment que Dieu est mort, il est mort. Si vous n'avez pas le sentiment que Dieu est mort, cela n'empêche, il est mort sur la croix. Si vous avez le sentiment que vous êtes mort, vous êtes mort. Et si vous n'avez pas le sentiment que vous êtes mort, cela n'empêche pas que vous êtes mort de façon tout aussi certaine. Ce sont des faits divins. Que Dieu est un mort, et mort est un fait. Que les deux voleurs sont morts est un fait. Et le fait que vous êtes mort est un fait. Laissez-moi vous le redire. Vous êtes mort, vous êtes liquidé, vous êtes éliminé. Et celui qui est mort est libéré du péché. Romains 6, 7, c'est l'évangile pour le chrétien. Encore une fois, je veux insister sur le fait qu'il y a des réalités spirituelles qui sont invisibles, mais qui n'en sont pas moins des réalités. Et ces réalités, on ne les reçoit pas par nos sens, par notre logique, par notre intelligence. On les reçoit en recevant la parole de Dieu. Tout ce qu'il a déclaré est la vérité. Ta parole est la vérité. Jean 8. Nous pouvons nous baser sur ces faits. Et c'est important d'avoir ces faits comme des réalités, les considérer comme des réalités, et après de mettre en harmonie notre expérience avec ces faits. Et de ne pas faire l'inverse, et de dire que je suis un pécheur, j'arrête pas de retomber dans le péché tout le temps, donc tout ça c'est du verbiage, c'est pas des réalités. Vous êtes mort au péché. Le péché n'est pas mort en nous. Paul dira dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. » Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Le vieil homme qui a été crucifié, vous vous souvenez, c'est dans Galates 2:20. Ça aussi, c'est un passage difficile à comprendre d'une façon intellectuelle, mais c'est une vérité qui nous est déclarée. J'ai été crucifié avec Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et ce que je vis maintenant dans mon corps, je le vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est donné lui-même pour moi. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, en effet, si la justice obtient par la loi, alors Christ est mort pour rien. Mais j'ai été crucifié avec Christ. Le vieil homme qui a été crucifié, c'est notre vieille nature adamique qui descend d'Adam et qui a hérité du péché de façon quasi génétique spirituellement. Cette vieille nature n'avait pas le pouvoir de dire non au péché, mais maintenant, nous avons cette puissance. Dieu, déjà, parlait à Israël et disait dans le prophète Michée 6:4, « Je t'ai fait monter du pays d'Égypte, je t'ai racheté de la maison de servitude et j'ai envoyé devant toi Moïse, Aaron et Myriam. » Une autre traduction dit « Je t'ai tiré d'Égypte et j'ai coupé les chaînes de l'esclavage. » Les chaînes sont brisées, nous l'avons chanté. « Libre de nos chaînes. » On dit « Oh, c'est joli comme musique. » Non, c'est des réalités. Les chaînes de l'esclavage ont été brisées. Nous sommes libres de partir. Mais il y a la très belle illustration du chien qu'on attache à sa niche avec une chaîne. Même si c'est une longue chaîne, un jour un maître peut décider de couper la chaîne, mais le chien peut décider de continuer à vivre dans sa niche. Et de la même façon, nous sommes libres du péché, mais nous sommes libre aussi, malheureusement, de revenir dans notre prison du péché. Ce même auteur chinois, Watchman Nee, écrit « La façon dont Dieu libère est complètement différente de la façon dont l'homme libère. La façon de l'homme, c'est d'essayer de supprimer le péché en cherchant à le vaincre, à le dominer. » La façon de Dieu, c'est d'éliminer le pécheur. Nous sommes morts au péché. Dieu nous libère de la domination du péché, non pas en fortifiant le vieil homme, la vieille femme, mais en le crucifiant, en la crucifiant. Reconnaissons que nous sommes absolument sans aucun pouvoir de faire quoi que ce soit. Et il continue en disant « Une pareille découverte amène vite à la fin des efforts humains. » Rappelez-vous, nous étions appelés dans la première partie du chapitre 6 à savoir ces choses, à les considérer, à les mettre dans notre compte en banque spirituelle, dans notre connaissance de notre situation, et à nous livrer, à offrir nos corps comme des instruments de justice et non plus comme des membres de l'injustice. Ne livrez pas vos membres au péché comme armes pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort et offrez à Dieu vos membres comme armes pour la justice. Et il nous disait, le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Quelqu'un a très justement dit, être sous la loi signifie que nous devons faire quelque chose pour Dieu. Tous les efforts des religions traditionnelles. Je ne sais pas si Dieu m'aime, je vais faire tous ces sacrifices, je vais faire tous ces pèlerinages, je vais donner tout cet argent, je vais... Être sous la grâce signifie que Dieu fait quelque chose pour nous. Et trop de chrétiens, nous portons un fardeau de règles religieuses. On arrive à... Bientôt c'est Noël, on a commencé à décorer, à célébrer un petit peu. Bientôt ça va être la nouvelle année et son cortège de bonnes résolutions. On se dit, ça tombe bien, à partir du 1er de l'an, je vais surveiller mon régime. Je vais faire ceci, je. Et dans le domaine spirituel, c'est la même chose. Cette année, je vais lire toute la Bible. Je vais commencer le 1er janvier. D'ailleurs, c'est drôle, dans mon livre de lecture de la Bible en un an, les premières pages sont toujours bien utilisées, bien marquées. Et puis vers le milieu, ça devient, on dirait que ça n'a jamais été ouvert. Et puis un peu plus loin, alors là, il y a eu un petit réveil. Mais ça, c'est parce qu'on est dans la... On compte sur nos propres efforts pour faire quelque chose de spirituel. C'est pas mauvais en soi, mais c'est pas comme ça que ça peut marcher. Être sous la grâce, oui, ça veut dire que on peut pas... C'est par la grâce qu'on va arriver à la sainteté, pas par nos propres efforts, mais par ce que Dieu fait pour nous. Il est même dit que la loi révèle le péché et elle a même tendance à augmenter le péché parce que nos cœurs sont rebelles. Si on vous dit de ne pas faire quelque chose, vous allez vous demander pourquoi et vous allez vouloir le faire pour voir ce qui se passe quand vous le faites. La loi, elle a été donnée pour montrer le péché, pour nous montrer qu'on n'y arrive pas tout seul. J'aimais bien le poème que j'avais cité. La loi me dit, fais ceci et tu vivras demain, mais ne me donne ni pied ni main. L'évangile m'amène une bien meilleure nouvelle. Il m'ordonne de voler et me donne des ailes. En anglais, do this and live, the law commands, but gives me neither feet nor hands. A better word the gospel brings, it bids me fly and gives me wings. Paul nous a donc convaincu que, dans la première partie, qu'une vie de péché habituel n'est plus une option pour celui qui a été transformé par la grâce. Spurgeon avait déclaré, « La grâce qui ne transforme pas ma vie ne peut pas sauver mon âme. » Autrement dit, la sanctification, c'est une preuve de la justification. Parce qu'une fois que Dieu me déclare juste, il n'en reste pas là. Il vient me transformer pour me conformer toujours plus à l'image de son Fils Jésus. On a dit que Dieu attrape le poisson, puis il le nettoie. Une image un peu triviale, mais beaucoup de personnes disent qu'ils ne peuvent pas s'approcher de Dieu parce qu'ils ne sont pas purs, ils ne sont pas... Venez à lui et il va vous transformer. J'aime bien l'idée de dire que si ma sanctification n'est pas réelle, alors ma justification n'a pas eu lieu. Et une autre façon de dire ça, c'est en parlant de fiction... Si ma sanctification n'est que sanctifiction, alors ma justification n'était que justifiction. Ça ne s'est pas passé, ce n'était pas réel. Encore une fois, la question qu'il se pose, c'est est-ce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir une petite pause péché de temps en temps? Mais c'est fatigant d'être toujours vertueux, c'est vrai? De résister à la tentation. On a tous cette suggestion, pourquoi ne pas céder à la tentation? Ça ne va pas m'envoyer en enfer, mon salut est fondé sur Christ seulement. Mais c'est de la folie. Mon pasteur Wayne disait que utiliser la grâce de Dieu pour s'adonner au péché, C'est comparable à avaler du poison alors qu'on est sous des soins médicaux. On a la sainteté, c'est la véritable santé. Il parle, on a vu, de l'esclavage. L'esclavage, c'était une réalité omniprésente dans l'Empire romain. On dit même que sur les 100, on pense qu'il y avait à peu près 120 millions de personnes vivant dans l'Empire romain, et 60 millions de ces Romains ou de ces personnes qui vivaient dans l'Empire romain étaient des esclaves. Une personne sur deux était esclave. Alors ça ne voulait pas dire toujours que c'était des esclaves qui étaient abusés, il y avait même des esclaves qui étaient instruits. Sénèque était un ancien esclave. Mais il y en avait tellement qu'il y avait une idée au Sénat romain de se dire on devrait mettre un vêtement spécial pour reconnaître les esclaves dans l'Empire romain. Puis quelqu'un a dit tout de suite, c'est une idée absolument idiote et stupide, parce qu'ils vont s'apercevoir qu'ils sont si nombreux qu'ils vont se révolter. Donc on les a laissés avec des vêtements passe-partout. Aujourd'hui, malheureusement, il y a encore certains pays où l'esclavage existe. En France même, on a parlé de cas d'employés de maison, des gens sans papier qui servent des maîtres corrompus, qui ne leur laissent aucune liberté, qui leur retiennent leur passeport. Très récemment, le 14 novembre 2017, c'est pas vieux, vous pouvez voir sur YouTube ou sur Internet une vidéo d'un marché aux esclaves en Libye qui a été diffusée donc sur CNN, et on voit des hommes, des Africains sur lesquels il y a des enchères. On voit une personne, un homme en bonne santé, un jeune homme en bonne santé, on entend 400, je crois que ce sont des dollars, quelqu'un qui dit non, 600. Et donc cette réalité, malheureusement, elle est toujours là. Nous, on a d'autres formes d'esclavage. On peut être esclave du travail. On ne vit que pour son travail et que par son travail, au mépris de ses responsabilités familiales, des responsabilités citoyennes. On peut être esclave des choses matérielles, de la richesse, de certaines passions, de certains vices. On peut être esclave de la pornographie, on peut être esclave de l'argent, des richesses, des loisirs. Mais Paul nous montre qu'on peut être délivré de ces mauvais maîtres. Et ce qu'il y a, en fait, c'est le grand principe que Paul nous déclare dans le reste du chapitre 6, 15 à 23, c'est qu'il y a une liberté qui est en réalité un esclavage, et il est un esclavage qui est en fait une liberté. Nous sommes faits pour avoir un maître. C'est une réalité psychologique que la psychologie n'aime pas reconnaître. C'est déplaisant pour notre orgueil, mais on est fait pour être contrôlé par des forces qui nous dépassent. On aime penser que nous sommes des créatures souveraines, que nous avons notre propre liberté, qu'on peut décider de notre destin. Mais en fait, nos choix sont très limités. Et le chanteur théologien folk américain Bob Dylan, qui a reçu le prix Nobel il n'y a pas très longtemps, déclarait très justement « Vous allez servir quelqu'un ». Ça sera peut-être le diable ou ça sera peut-être le Seigneur, mais sachez que vous allez servir quelqu'un. Jésus disait, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il ira l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Parlant du Dieu des richesses, Mammon, mais il disait, vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Le péché fait de nous des esclaves, c'est les versets 16 à 19. Ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes les esclaves du maître à qui vous obéissez. Le principe de base, c'est que l'obéissance résulte en esclavage. Le péché rend esclave comme une addiction traitée médicalement aujourd'hui. On sait qu'il y a des sécrétions d'hormones qui font que succomber à cet esclavage libère ces substances et nous fait du bien. Le péché est agréable, c'est pour ça qu'on pêche. Il n'y a pas de notice sur une boîte de clous disant « Ne mâchez pas ces clous pour le plaisir. » Par contre, on vous fait de la publicité pour boire du whisky, pour fumer telle ou telle cigarette, etc. Parce qu'au début, il y a un certain plaisir. Et on se croit libre, alors qu'en fait, on est esclave. C'est particulièrement frappant dans le domaine de la mode. Les jeunes aiment bien suivre la mode en pensant qu'ils sont anticonformistes. Ils ne se conforment pas, certes, au style de leurs parents, mais ils se conforment tous les uns aux autres. Ils portent la casquette de baseball avec la visière à l'arrière. Ça, c'est cool. Ça peut être utile quand on est en montagne, ça m'arrive, pour éviter le coup de soleil sur le cou, mais normalement, en ville, la visière, c'était pour éviter le soleil, pour ne pas être ébloui. Mais tous les jeunes, vous n'allez pas voir un seul jeune qui va porter sa casquette avec la visière à l'avant. Parce qu'on est esclave de la mode. Les pantalons. À l'époque, quand j'avais une vingtaine d'années, la mode, c'était les pattes d'éléphant. Les pantalons avec des jambes évasées. C'est pas moi qui me suis dit, tiens, aujourd'hui, j'aimerais bien avoir des pantalons avec des... Tiens, en ce moment-là, j'ai des jambes de pantalon qui sont étroites. Pourquoi ? Parce que c'est la mode. C'est pas plus pratique, c'est même difficile à enlever. Demandez à Craig, il a des problèmes pour enlever ses... Mais c'est la mode. Et on peut être esclave de toutes ces choses. Jésus l'a dit clairement, Jean 8, 34, en vérité, et quand il dit ça, c'est parce qu'il a quelque chose d'important à nous dire, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. Pierre disait, ils leur promettent la liberté alors qu'ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est l'esclave de ce qui a triomphé de lui. Mais que Dieu, verset 17, que Dieu soit remercié alors que vous étiez esclaves du péché, vous avez obéi de tout cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confiés. Et une fois libérés du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Nous étions esclaves du péché involontairement parce que nous avons cette inclination naturelle, notre vieille nature, à faire des actes mauvais. Et volontairement, dans le sens où plus on se laisse aller à ces actes mauvais, plus nous devenons soumis au péché. Et il y a un cercle vicieux qui s'installe. Les versets suivants nous montrent ce que nous étions avant et ce que nous sommes devenus après cette justification, cette libération. Et cette sanctification qui nous libère de la puissance du péché. Avant, nous étions esclaves du péché, c'est le verset 20. Et maintenant, nous avons un nouveau maître, c'est le verset 22. Nous sommes devenus esclaves de Dieu. Nous étions employés par le péché. Maintenant, nous avons une nouvelle occupation. Nous sommes esclaves de la justice. Nous étions, verset 21, déçus, humiliés, nous avions honte. Aujourd'hui, nous pouvons avoir une nouvelle attitude de liberté. Nous étions payés par le péché. Encore une fois, le péché est attractif, il nous donne quelque chose de bon au départ, mais rapidement, il nous impose son joug, et à la fin, le salaire du péché, c'est la mort. Ce n'est pas nécessairement tout de suite une mort physique, mais c'est la séparation d'avec Dieu. Elle est temporaire pour le chrétien, mais elle est permanente pour le païen jusqu'à ce qu'il vienne à Dieu. Et le salaire, c'était la nourriture donnée aux soldats au lieu d'argent. C'était comme des rations, du sel. On donnait du sel comme, parce que c'était précieux. Aujourd'hui, nous avons une vie éternelle, future, garantie, verset 23. Le don gratuit de Dieu, c'est un don gratuit, c'est plus un salaire. C'est pour ça que ça peut être si merveilleux, c'est pas basé sur nos efforts. Le salaire, par définition, c'est ce qu'on gagne par notre travail. Nous avons vraiment un changement de perspective. Et un auteur disait, pour nous qui sommes chrétiens, c'est une vérité stupéfiante de réaliser que nous pouvons être libres, mais que nous pouvons aussi être enchaînés. Nous devons faire quelque chose devant le péché. Et il disait, nous pouvons compter sur la théologie corrective, et il faisait allusion au passage de 1 Jean 1,9, qui dit, c'est page 1391, si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Une autre version disait, si nous confessons, reconnaissons avec lui nos péchés comme étant des péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Je suis très reconnaissant à Dieu que ce verset soit bien dans ma Bible. Et cet auteur disait, soit on va traiter le péché avec la théologie corrective de ce verset, de dire qu'on va confesser et recevoir son pardon, ou alors on peut essayer d'appliquer la théologie préventive de Romains 6. Christ a déjà remporté la victoire, la décision pour la victoire nous appartient. C'est comme mon pasteur Wayne a écrit un livre qui s'appelait « La guerre civile intérieure ». Et c'est vrai que ça fait rage à l'intérieur de nous. D'un côté, on veut faire le bien, de l'autre, notre vieille nature veut faire le mal. C'est le combat entre l'esprit et la chair. C'est un combat, nous faisons tous malheureusement l'expérience intérieure. Le péché est contraire, notre chair est contraire à l'esprit et l'esprit est contraire à notre chair. Et c'est un combat. Mais, verset 17, grâce à Dieu, et juste une parenthèse, si vous ressentez ce combat, sachez que vous êtes en bonne compagnie. Pas parce que je ressens ce combat en moi, mais on va voir au chapitre 7 que Paul lui-même va décrire ce combat d'une façon saisissante avec laquelle vous allez pouvoir vous reconnaître. J'ai beaucoup de chrétiens qui m'ont dit, je suis resté chrétien parce que dans la Bible, dans ma Bible, il y a le passage de Romains 7. Mais ça, c'est juste une petite préannonce pour vous inviter à être présent dimanche prochain. Grâce à Dieu, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine, verset 17. Vous avez obéi de tout cœur au modèle d'enseignement auquel vous avez été confié. D'autres parlent de la forme de doctrine, mais l'idée qui est présente, c'est l'idée de fondre un métal et de le verser dans un moule qui va lui donner une empreinte. Et cet objet en métal qui a été ainsi moulé, qui a reçu une empreinte, il va pouvoir recevoir le poinçon du fabricant ou de l'artisan qui va lui donner son authenticité. Et l'image de Dieu, c'est ce moule dans lequel la doctrine qui a été transmise nous dépose. Nous sommes transformés, nous sommes moulés par ces règles de doctrine, ces vérités bibliques, ces vérités de l'Évangile. Et si on obéit de cœur après avoir été esclave, on est libre. On est autonome dans un sens. Un commentateur français, j'aime bien les citer parce qu'ils ne sont pas nombreux, il s'appelle Richard Doulière. Il a été un temps pasteur à Nice même, à l'église libre. Il disait, trop souvent, le chrétien tente ce qui est impossible et devrait rester impensable. Impossible et impensable, c'est le fait d'appartenir à Dieu, mais de se mettre de temps en temps au service de l'ennemi. C'est fou ça. De penser qu'on est libre, mais on vient se remettre un peu sous les chaînes de celui qui veut notre mort. L'esclave, le mot d'esclave qui est utilisé dans ce passage, c'est le mot doulos. C'était quelqu'un qui était né dans la condition d'esclave. Sa volonté était absorbée complètement dans la volonté du maître. Et les liens qui le liaient à son maître ne pouvaient être brisés que par la mort. Et il servait son maître au mépris de ses propres intérêts. Il ne se disait pas le matin, tiens, je suis fatigué, je vais prendre une petite grasse matinée. Non, il devait, au mépris de ses propres intérêts, suivre son maître. Pour nous, nous sommes nés esclaves au péché. Notre volonté a été absorbée, capturée par la volonté du péché en nous. Et notre esclavage était si fort que seule la mort, lorsque nous sommes morts spirituellement avec Jésus à la croix, Galates 2:20, seule cette mort pouvait briser les liens. Et nous étions esclaves au péché, au mépris de nos propres intérêts. Même si le péché nous détruit, on se laisse faire. On se laissait faire. Je sais que je ne devrais pas boire, mais je vais en prendre un petit verre. Allez. Et ainsi de suite. Maintenant que nous sommes esclaves de la justice, nous sommes nés de nouveau. Esclaves, c'est un esclavage à la justice. Notre volonté, elle est maintenant absorbée dans la volonté de Dieu. C'est sa volonté qui compte, pas la nôtre. Est-ce que le matin, je me dis, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie ce matin? Quelqu'un disait, justement, il y a deux genres de personnes. Il y a ceux qui disaient, comme Jésus à la croix, que ta volonté soit faite dans ma vie. Et puis d'autres qui disent que ma volonté soit faite aujourd'hui. Que tous mes désirs se passent. Mes idées, etc. Nous sommes maintenant liés avec Jésus, avec des liens que seule la mort peut briser, Mais puisque lui, on a vu, c'était noté, que lui, il est mort une fois au péché, il ne va pas remourir. Il a triomphé de la mort, il nous a donné la vie éternelle. Ces liens ne seront jamais rompus. Et maintenant, et ça c'est quelque chose qui va vous poser question, nous servons maintenant Jésus au mépris de nos propres intérêts. Est-ce que vous pensez servir Jésus-Christ au mépris de vos propres intérêts? Est-ce que je sers Jésus au mépris de mes propres intérêts? Est-ce que je me dis le matin, Seigneur, fais que ta volonté soit faite dans ma vie, fais-moi faire des choses, même si je ne veux pas les faire, si elles viennent de toi, je veux que tu exerces ton pouvoir dans ma vie. Est-ce que nous sommes prêts à mépriser notre sommeil, notre fatigue, nos ressources financières? Est-ce que nous sommes prêts à servir au mépris de nos propres intérêts? Je ne le fais pas assez souvent, je ne le fais pas régulièrement, je le fais en rechignant. Et pourtant, mon expérience, c'est que quand je fais ça, Dieu me bénit en retour au-delà de ce que je peux lui donner. J'ose pas lui donner la dîme parce que j'ai des dépenses qui arrivent, mais je lui donne la dîme, quel que soit le montant que j'ai fixé dans mon cœur en paix avec lui. Et ben ces dépenses supplémentaires qui arrivent quand je ne lui obéis pas dans ce domaine, elles ne vont pas arriver. Au contraire, il va même pouvoir pourvoir au-delà de ce que je peux penser. J'ai été invité, une petite expérience personnelle récemment, invité à venir enseigner pendant 2 semaines l'Épître aux Romains à Paris, dans la nouvelle école biblique de Calvary. Et je me disais, mais j'ai déjà pas le temps de faire tout ce que j'ai à faire ici, comment est-ce que je peux prendre 2 semaines préparer pour enseigner, faire des corrections après sur tous les devoirs qu'on doit donner aux étudiants? Mais j'ai vraiment senti que c'était Dieu qui me demandait de le faire pour encourager, pour être présent là-bas, encourager ma Québéki, l'école qui démarre. Et en fait, j'ai été béni. J'ai été béni par les étudiants, j'ai été béni par le stage, j'ai été béni par le temps mis à part pour faire ça. Est-ce que mes propres intérêts, a priori, c'était de ne pas perdre de temps, pas faire cela? Mais je vous invite vraiment à chercher à faire ce que Dieu veut que vous fassiez. S'il vous demande de passer du temps au service de l'Église, dans quelque condition que ce soit, essayez de lui obéir et voyez ce qui va se passer. C'est pas la foi qu'on doit faire ces choses-là. Mais Dieu est toujours là pour nous bénir au-delà de ce qu'on peut lui donner. Alors on ne va pas lui donner en espérant « je vais donner ma dîme ce mois-ci, voir combien je touche en retour. » Non, c'est vous êtes esclave de lui, vous le servez, vous servez Jésus au mépris de vos propres intérêts. Le vrai chrétien sait bien qu'appartenir au Seigneur et le servir n'est en rien un esclavage. Il a pu vérifier la vérité des paroles de Jésus dans Matthieu 11, 29 et 30. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. Car mon joug est aisé et mon fardeau est léger. Du dehors, on peut se dire, oh oui, mais ça va être des sacrifices, je ne vais plus pouvoir aller faire ce que je veux, danser, fumer, boire, aller au cinoche, n'importe quoi. Et c'est souvent vos amis vont vous dire, mais c'est pas drôle ta vie maintenant. Mais la joie que vous avez en vous, si elle est réelle, elle va les attirer à vous. À Dieu, pas à vous, j'espère que c'est pas. Ils vont dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et le péché nous fait honte. Vous étiez esclaves du Versets 20 et 21, c'était, vous aviez ces fruits, vous faisiez honte, on portait des fruits, un esclavage. Le péché répand la mort dans toute notre existence. Mais maintenant, nous avons la vie éternelle. Il faut, ce même auteur français Richard Doulière disait, ce qui est souligné une nouvelle fois, c'est la nécessité de s'abandonner réellement à Dieu pour que notre salut en Jésus-Christ porte son fruit. Le détachement par rapport au péché doit être suivi d'un attachement à Dieu. La nature a horreur du vide, notre âme aussi, on ne peut pas cesser le péché si on ne va pas s'attacher à Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ta parole qui est la vérité. Merci pour toutes ces réalités que tu nous révèles et que nous devons recevoir telles quelles, même si elles ne correspondent pas toujours pour l'instant à notre expérience, Seigneur. Aide-nous à les recevoir comme étant des réalités spirituelles, véritables, absolues, absolument vraies, sur lesquelles nous pouvons fonder nos vies et nos comportements, Seigneur. Je te remercie de ce que tu nous as libérés de l'esclavage du péché. Tu nous laisses libres toujours de faire ce que nous voulons, mais Seigneur, donne-nous la raison, le bon sens de ne pas retourner dans l'esclavage du péché, Seigneur. Merci pour cette lettre de Paul aux Romains et toutes les vérités merveilleuses qu'elle nous révèle. Apprends-nous à les vivre tous et toutes davantage, jour après jour. Sois glorifié dans notre communion fraternelle, maintenant nous te le demandons. Te bénissons, Seigneur Jésus. Amen.